Tour de France féminin, le récit d'une conquête. Élise Gruot, François Test.
On n'a jamais vu ça.
Premier épisode, 1984, un tour en marge des hommes. Dès sa création à la fin du 19e siècle, la bicyclette apparaît dans tout son potentiel d'émancipation, bien compris par les femmes qui peuvent enfin se déplacer libres et autonomes, et par des hommes qui très vite le leur interdisent, à grand renfort de manuels médicaux et de traités de bonnes mœurs, dénonçant leur grimaçant visage de vélo sur fond de sexualisation supposée de la pratique. Ainsi, le vélo au féminin est-il une histoire ponctuée d'exclusion et de conquête ? Et si les hommes ont couru leur premier Tour de France en 1903, il a fallu attendre 1984 pour que des pelotons de femmes reprennent le départ de la Grande Boucle. Et malgré l'émergence de grandes championnes, leur chemin pour accéder à ce sport de haut niveau s'est révélé aussi escarpé qu'un col des Alpes.
Je m'appelle Julien Chesnay, je suis journaliste de sport à Vélo Magazine. Dès la première grande course cycliste organisée de ville à ville, qui était Paris-Rouen le 1er novembre 1869. Il y avait déjà des femmes au départ. Elles étaient 5 sur les 198 engagées. Et parmi les 40 personnes, il me semble, qui ont terminé, il y en avait une femme qui s'appelait Miss America, c'était son surnom, Madame Turner, qui était une Britannique, et qui a terminé l'épreuve. Donc on peut observer que dès la toute première course que retient l'histoire du vélo, les femmes étaient présentes. En 1924, pour la seule fois de l'histoire, il y a une femme qui s'appelait Alfonsina Strada, qui a été autorisée à prendre part au Tour d'Italie 1924, et elle l'a terminé. Donc on peut voir que d'emblée, les femmes ont montré qu'elles étaient capables de participer à des courses non seulement cyclistes, mais aussi avec les hommes. Et pourtant, il a fallu attendre 1984 pour avoir enfin un premier véritable Tour de France dédié à leur pratique.
Tour de France.
Le vélo, pour moi, c'est le premier outil d'émancipation, pour une femme d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'elles sont parties toutes seules.
Marie-Françoise Potreau, ancienne coureuse cycliste.
Voilà, ce besoin de liberté, et sans être tutorée, sans être coachée, on était acculturée à se dire on ne pouvait pas faire sans eux, hein. UX, voilà. Et aujourd'hui, le vélo, c'est le premier outil d'émancipation de la femme qui peut partir toute seule, où elle veut, quand elle veut. Voilà, et ça, c'est important. J'ai été élevée dans une famille où, voilà, le papa avait beaucoup d'autorité sur sa femme, et j'ai peut-être voulu justement le contraire après. Vous savez, quand vous êtes en difficulté sur un vélo et qu'il faut quand même arriver au sommet, il faut être tenace. Et ben, c'est pareil dans mes engagements associatifs. Je ne lâche rien. Et je pense que je le dois au cyclisme que j'ai fait.
La première porteuse du maillot jaune, Mickey Havik, en 1984, elle s'est prise de passion pour le vélo en regardant le Tour de France 1968, qui était remporté par un Néerlandais, Jannie Janssen. Elle a regardé avec son grand frère, et tout de suite, elle a voulu se mettre au vélo. Son grand frère a eu l'autorisation, mais pas elle, parce que son père disait « Non, c'est dangereux, tu pourrais te faire des bleus, tu pourrais te faire mal. » Et en fait, elle a dû attendre d'avoir 21 ans, de partir de chez elle, d'aller travailler à Amsterdam. Elle faisait des études de travailleuse sociale et elle a commencé à travailler dans un restaurant à mi-temps. Et c'est comme ça qu'elle a pu s'acheter son premier vélo et commencer à faire ses premières courses à 21 ans.
Modèle unique, elle ne lâche rien. Un coup de plus, elle assure le train. Vélo d'argent, vélo de bronze, trésor au championnat du monde, Jeanne. Le rayon libre à ton profil, Jeanne. Devant la dame, la reine s'incline, Jeanne. Jamais de frein, jamais de pile. Face aux inégalités, elle balance ses prix qui défilent. Ouais, Jeanne.
Jeanne Longo, vous nous recevez ici dans votre maison sur les hauteurs de Grenoble. Et bon, on a un bon petit soleil qui nous chauffe là. Et sur la terrasse, il y a une petite chèvre même qui dort. Vous êtes une des plus grandes cyclistes de tous les temps. Comment est-ce que le vélo est entré dans votre vie ?
Il a commencé très tôt, le vélo, dans ma vie, parce que toute petite, déjà, j'habitais Saint-Gervais, hein, donc en Haute-Savoie. Mais déjà toute petite, je prenais des tout petits vélos que mes sœurs avaient déjà eus avant moi. Nous sommes trois sœurs. J'aimais bien monter un col. Et puis après, je m'arrêtais au sommet, où j'allais acheter un pain. Des fois, il y avait des boulangeries dans des fermes encore, hein, ça existait. Puis après, eh bien, je me suis lancée dans le ski alpin quand même, comme beaucoup de Hauts-Savoyards, de petits Hauts-Savoyards. Très rapidement, on m'a dit que j'étais trop vieille. Donc à 15 ans, j'étais déjà trop vieille.
En ski.
À l'époque, oui, à ski, les jeunes femmes étaient prises très tôt, très très tôt. Et en 1980, le championnat du monde a eu lieu à Sallanches, donc à 10 km de chez moi. Juste quand je l'ai appris, donc un ou deux ans avant, je me suis dit, oh, ça serait bien que je fasse les championnats du monde. Bon, on doute de rien quand on est jeune. Hein. Parce que bon, j'étais pas trop mauvaise à vélo quand même. Je faisais des petites courses chronométrées, des choses comme ça. Donc voilà. Et je connaissais déjà mon fiancé, enfin celui qui a devenir mon mari, donc Patrice, qui lui était quand même un peu plus implanté dans le vélo. Enfin, son père était un ancien coureur. Donc, il m'a dit, il me faudrait que tu prennes une licence. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai été championne de France la première année. Mais tout en courant en ski alpin, parce que j'étais membre de l'équipe de France universitaire de ski alpin. Donc, je courais tout l'hiver. Et après, au mois d'avril, mars, avril, je prenais mon vélo. J'étais toujours avec les hommes et j'étais toujours devant. Donc, j'arrivais toujours... à la fin, à les tenir, quoi, même dans l'école et tout. Donc, tout le monde a vu tout de suite que j'avais des capacités. Et bon, j'ai été championne de régionale, et puis après, championne de France. Et donc, je suis allée au championnat du monde dès la première année, en 1979.
À Rambouillet, pendant ce temps, nouvelle conquête féminine. Toutes celles, une quarantaine, que la gloire de Bobet fait rêver, se sont soumises aux petites formalités qui préparent les grands champions cyclistes. Les massages, dans ce cas, ne sont plus une simple question d'esthétique. Et nos coursières, c'est leur titre officiel. Le mot coureuse n'ayant pas été retenu. Nos coursières, donc, ont accepté la bande de sparadrap qui doit leur affermir les reins.
Julien Chesnais, il y a eu aussi un épisode dans les années 50 d'un Tour de France féminin.
Tout à fait, qui est organisé par Jean Leliot. Alors, c'était une personne un peu particulière parce que c'était lui qui avait organisé le Circuit de France en 1942. Sous l'occupation allemande. Et donc, il organise cette course, mais c'était un fiasco total en 1942. Mais il était plein d'idées, cet organisateur-là. Et donc, il a voulu lancer un Tour de France féminin en 1955. Mais il n'y a pas eu de lendemain. Dès 1956, l'épreuve n'a pas eu de deuxième édition. Et en fait, dans le contexte de l'époque, le quotidien L'Équipe disait que le bon sens a triomphé. Qu'il fallait plutôt qu'elle se dédie à des pratiques cyclotouristes plus conformes en fait, à leurs capacités musculaires.
Marie-Françoise Potreau, est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts dans le cyclisme ?
Alors, mes débuts dans le cyclisme, j'ai commencé à faire du vélo par hasard, puisque dans cette belle région savoyarde, j'ai fait un peu de vélo avec un cousin un dimanche après-midi, sortant du restaurant, je m'en rappelle toujours. On est monté le col du Chat, et en montant ce col, en fait, voilà, j'étais très à l'aise et... Je les ai tous, comme on dit, déposés en vélo, voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Ils m'ont encouragé à aller faire des cours. J'ai fait des courses en FFGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, pour lequel, voilà, j'ai pris du plaisir puisque je gagnais. Et de là, j'ai pris une première licence, voilà, en 83, pour faire du cyclisme. J'aurais jamais pensé aller au-delà. Et puis, au fur et à mesure, les résultats étant là, j'ai continué, j'ai été encouragée, j'ai continué à cette pratique du cyclisme pour être en équipe de France, pour disputer le premier Tour de France en 84, qui était extraordinaire. Je crois que j'en garderai un souvenir incroyable. Et puis, voilà, une belle carrière dans le cyclisme pour moi, mais qui m'a aussi projetée dans ma vie professionnelle après, puisque j'en ai fait mon métier d'abord en tant qu'entraîneur. Et puis, derrière, aujourd'hui, je suis une élue de la fédération et ce n'est pas par hasard.
Donc, la Fédération française de cyclisme aujourd'hui ?
Tout à fait, Fédération française de cyclisme. J'en suis à mon troisième mandat. Et je suis ravie parce que c'est le mandat où on a appliqué la parité homme-femme, alors que les deux précédents mandats, on était très peu de femmes. On était deux femmes au bureau exécutif.
Coup de savate contre la montre, c'est quand sa montre, que l'horloge fait défaut. Et si le sort ne s'y met pas, à pied, elle continuera. Ouais, j'allais. Sous le guidon, il n'y a pas que bitume, Jeannie. La rage a souvent décoré l'amertume, Jeannie.
Jeannie Longo, vous devenez rapidement championne de France et vous vous lancez dans des compétitions internationales.
Oui. Bah, j'ai été surtout rapidement vice-championne du monde, donc en 1981. Alors, c'est vrai que j'ai raté le titre pour quelques centimètres au sprint, quoi. Donc c'est là qu'on a... Et puis j'ai été aussi, cette année-là, j'ai eu une médaille de bronze sur piste, en poursuite. Donc c'est là que je me suis dit, c'est vrai qu'au niveau international, je peux jouer dans les, enfin, avec les meilleurs, quoi. Et les Jeux Olympiques ont eu lieu pour les femmes sur route, uniquement sur route, hein, en 1984 à Los Angeles. Et donc là, je me suis dit, ben, je vais à fond dans le vélo et j'arrête le ski alpin. Donc l'hiver 82-83 a été ma dernière saison en ski alpin avec l'équipe de France universitaire. Et je me suis dit, bon, ben là, je me lance à fond dans le vélo et j'essaie d'avoir une médaille olympique.
Et ça, c'était à Los Angeles.
Oui. Ouais. Malheureusement, je dirais à 400-500 mètres de l'arrivée, j'étais en train de me placer pour le sprint, j'étais en train de mûrir mon plan. Et une des six filles italiennes est venue me percuter, enfin m'accrocher, et elle m'a accroché mon dérailleur et j'ai fini à pied parce que j'avais la chaîne qui pendait par terre. Donc c'était une énorme déception parce que je me suis dit, les Jeux Olympiques, j'aurais pas d'autre chance quoi, de gagner. C'est fini.
Antenne 2, 1984.
Pour la première fois depuis 30 ans, il y avait aussi des dames au départ de ce 71e Tour de France. Elles sont sans doute plus discrètes que les messieurs, mais elles sont bien là. Six équipes féminines composées chacune de six concurrentes. Seule concession, elles auront droit à un parcours spécialement conçu pour elles. Brigitte Duvauchel.
Vas-y, Bobette. Il y a bon nombre d'années que les femmes pratiquent le cyclisme en compétition. Et l'on se souvient de Geneviève Gambillon, Josiane Bost et Jeannie Longo. Mais cette année, fait historique, le cyclisme féminin enfonce la grande porte. Première participation aux Jeux Olympiques à Los Angeles et 80 ans après les hommes, premier Tour de France. Les 36 participantes auront un millier de kilomètres répartis en 18 étapes à parcourir d'ici le 22 juillet, où elles finiront en beauté sur les Champs-Élysées. Un mini Tour de France, non, lorsque l'on sait qu'elles devront grimper le col de Jouplane et la Plagne. 5 pays sont présents à ce premier tour. Canada, Pays-Bas, Grande-Bretagne, États-Unis et la France avec 2 équipes.
Et vous avez concouru, Marie-Françoise Potreau, pour ce premier Tour de France féminin en 1984. Vous êtes arrivée 21e. Et même seconde sur l'épreuve finale jusqu'aux Champs-Élysées à Paris.
Oui, alors pour moi, c'était inattendu. Je crois que c'était le bonheur s'enchaînait tous les jours parce que je découvrais ce que j'étais capable de faire en tant que femme, en tant qu'athlète déjà. Et d'ailleurs, toute l'équipe de France, parce qu'on n'avait pas du tout été préparé pour ce Tour de France. Et le but était d'arriver sur les Champs-Élysées, peu importe la place qu'on pouvait faire dans le classement ou dans les étapes. Mais c'était vraiment de réussir à tenir 3 semaines de Tour de France. Et donc, on avait déjà démontré que les femmes étaient capables d'eux. Voilà. Et c'est vrai que le Graal, effectivement, cette deuxième place sur les Champs-Élysées, je m'en rappellerai toujours parce que d'abord, je m'y attendais pas à me retrouver toute seule devant, comme on dit dans le jargon. Et puis, quand je suis rentrée sur les Champs-Élysées, mais tout le monde soutenait la Française, ça m'a mis une pression pas possible. Et puis, de là, bah, effectivement, je fais deuxième parce que c'était une grande Hollandaise qui gagne devant moi. Mais voilà, j'en garde des souvenirs incroyables. Des fois, je regarde encore la petite émission télé qui avait passé, qu'on peut retrouver en archive. Voilà.
Elles ont sillonné la France, avalé les kilomètres, sur le plat, en montagne, et à ce rythme, les Hollandaises ont imposé la loi. À l'image par exemple de l'arrivée à Paris, ici c'est Connie Meyer qui remporte aisément sa deuxième victoire d'étape devant les Françaises Potreau et Diaz. Pourtant c'est une Américaine qui porte le maillot jaune dans le peloton et qui remporte aujourd'hui le premier Tour de France féminin.
Marie-Françoise Potreau, en tant que cycliste de haut niveau, dans les années 80, est-ce que c'était difficile d'accéder à des entraînements de haut niveau, de se professionnaliser? Comment était votre chemin de cycliste?
Alors effectivement, d'abord, dans cette période-là, on n'envisageait pas du tout de statut professionnel, pas du tout, puisqu'il y avait un statut professionnel que chez les hommes, et dans beaucoup de disciplines sportives aussi, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'à côté, on avait le souci de se former professionnellement à différents métiers, mais on avait également le souci de trouver l'équilibre pour pouvoir s'entraîner et pouvoir prétendre, si vous voulez, à des performances tout en travaillant. Moi, j'ai d'abord commencé comme secrétaire médicale dans une clinique à Chambéry, etc. J'ai eu la chance d'avoir à cette époque-là
un grand patron de cet établissement, qui, lui-même étant très sportif, m'avait laissé partir les 3 semaines du Tour de France, alors que j'avais plus de congés. Et après, j'étais monitrice de ski d'hiver, ce qui me permettait de faire que du vélo. Mais je suis très contente d'avoir eu quand même à garantir, je dirais, mon activité professionnelle pour être aujourd'hui une retraitée qui a cotisé.
Dans les années 80-90, quels étaient les obstacles pour se professionnaliser dans le monde du cyclisme pour une femme ?
Bah écoutez, déjà, dans ces années-là, on n'avait pas accès au métier d'entraîneur, puisque le concours professorat de sport n'était pas ouvert aux femmes. Il a été ouvert aux femmes très tardivement. Ça a été en 98. Et dès l'instant, on ne pouvait pas passer ce concours, donc on ne pouvait pas en faire un métier.
C'était entraîneur pour le cyclisme ou entraîneur de sport en général qui était interdit aux femmes ?
Non, pour nous, c'était l'entraîneur cyclisme.
Donc il était écrit noir sur blanc dans un règlement que ce métier d'entraîneur cycliste était interdit aux femmes.
Voilà, c'est-à-dire que le concours pour faire son métier n'était pas ouvert aux femmes. Et c'est un courrier ministériel.
Tour de France. Radio Tour Information. Transmission, télévision. Reportage sur moto. Caméra vidéo et photo.
Et justement, Janie Longo, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passait le Tour de France féminin dans les années 80 ? Comment est-ce qu'il était organisé par rapport au Tour de France masculin ?
Alors, nous avions les villes départ qui étaient différentes, puisque nous ne faisions pas la même distance, hein, donc à le moindre. Hein, en général, je dirais 80, 100 km, parfois 120, mais on ne faisait pas les 200 s'il faisait 200. Donc nos villes départ étaient différentes, beaucoup de monde toujours, et les villes arrivées étaient les mêmes.
Le staff était toujours très attentif et l'organisateur à savoir si les garçons derrière roulaient très vite ou pas, parce qu'en fonction de ça, on nous décalait de quelques minutes notre départ. Et ce qui était extraordinaire aussi, c'est qu'on arrivait, donc il n'y avait pas eu beaucoup de communication, et on arrivait, les gens pensaient qu'on était les garçons, donc déjà pour nous, c'était pas tellement, on n'était pas tellement fiers, et puis il y avait un étonnement, les gens disaient « Ah, mais je crois que c'est des filles, ah, mais je crois que c'est des filles ». Je l'ai entendu je ne sais combien de fois sur ces tracés de courses féminines qui était pour nous le premier Tour de France.
Dans les archives de l'équipe, c'était dans un livre en fait écrit par le speaker du Tour de France féminin qui s'appelle Rémi Pigois. Et on peut lire que lors de la présentation des équipes qui s'était déroulée en même temps que celle des messieurs, donc c'était à Bobigny avant le départ de la première étape, il y a eu d'abord la présentation des messieurs, des équipes, des coureurs. Et une fois que c'était celle des femmes, la moitié des journalistes et des spectateurs se sont levés pour partir, parce qu'ils jugeaient que ce n'était pas suffisamment intéressant pour rester.
Jacques Chancel, avec Marc Madio et Janie Longo, 1985.
L'année dernière déjà, il y avait eu un commencement entre le Tour féminin et le Tour masculin, un commencement de guerre, d'ailleurs déclaré par Laurent Fignon. Oui. Laurent Fignon, l'an dernier, oui, avait attaqué Janie Longo. Et cette fois-ci, Marc Madio est venu vraiment au combat, avec des mots qui sont très durs. Alors lui attaque carrément le cyclisme féminin. Une femme sur un vélo, c'est moche. Vous avez même ajouté, Marc Badiou, si mes sœurs faisaient du vélo,
si
je les renierais.
Plusieurs,
vous l'avez dit.
Alors moi, je vais m'expliquer ça. Je vais être très clair. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis.
Tiens, mais pourquoi ?
Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Le sport cycliste est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel.
Non, je pense qu'on ne peut pas dire...
Maintenant, si ça te plaît, t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est tout.
On ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Bon, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à des hommes.
Pour moi, je vais vous dire, voir Ulrike Meyfarth faire du saut en hauteur, voir Evelyn Ashford faire du 100 mètres, c'est très joli. C'est très joli à voir, c'est un très beau sport. Laisse-moi terminer. C'est extrêmement beau à voir. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout.
Elle est très très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme...
Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous êtes moche, je suis désolé.
Jeannie Longo.
Moi, j'ai entendu un président de fédération, c'est très vieux, dans mes débuts, le président de fédération, qui était quelqu'un de bien, enfin d'honnête, quoi. Mais il me disait qu'il n'aimait pas du tout les femmes en cyclo-cross, parce que des femmes pleines de boue, non, ça ne lui allait pas du tout. Dans des siècles passés, la femme devait avoir une peau claire, pas marquée, parce que sinon, ça voulait dire qu'elle allait au soleil, qu'elle était une paysanne. Hein. Bon, donc maintenant... On a complètement changé, c'est-à-dire que la femme a accès à pratiquement tous les métiers, si elle en a les capacités. Dans le sport, c'est pareil. Avoir fait évoluer l'image de la femme, je pense que j'y ai participé, parce que comme je suis allée dès mes débuts, donc en 81 déjà, aux États-Unis, ça a un peu été mes modèles, les Américaines, qui avaient déjà de l'avance sur nous en matière de féminisme. Elles avaient déjà des beaux équipements en lycra, vous voyez. Bon, moi, j'ai été sponsorisée par lycra. J'ai eu des équipements qui étaient faits pour les femmes, quoi, qui étaient saillants et qui étaient proches du corps, avec des pinces pour la poitrine. Enfin voilà. Donc avec des couleurs aussi. C'est souvent moi qui choisissais les couleurs. Mais ça, c'est un peu aux États-Unis que j'ai appris ça. Après les équipements, c'est pareil. Je me suis battue beaucoup de faire des cadres petits pour des femmes de 1m65 comme moi, enfin 63. Donc tout ça, ça a été une évolution.
Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer.
Laurent Fignon et Jeannie Longo, 1986.
Je trouve que c'est pas un sport qui est esthétique féminin. Je comprends qu'on a envie de faire du vélo quand on est une femme, et moi je préfère ne pas regarder.
Est-ce que tu penses que tu aimes mieux la gymnastique rythmique ou des choses comme ça, où les femmes sont un petit tutu?
Non, c'est une question d'esthétique. Je trouve que c'est pas très, très joli à voir. Bon, bah, j'aime pas voir les femmes faire du football.
Mais t'es pas beau non plus quand tu fais du vélo. Hein,
bah, peut-être. Que... c'est pas grave.
Moi, je suis bien obligé de remarquer une chose. Jaillit Longo et le maillot jaune, pas nous.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.
Il y a une très longue tradition d'opposition entre les hommes qui n'ont pas voulu que les femmes accèdent au vélo.
Quand vous voyez quelqu'un arriver, notamment les femmes, prendre de la place, vous dites « moi j'en aurais moins ». Ça a été la même chose sur les élections. Par rapport aux élections de la Fédération française de cyclisme, avec l'application de la parité, où des femmes ont pris la place des hommes, on voit encore combien c'est complexe et difficile, soit par des petits agissements, soit par des réflexions. Et moi, je suis très attentive à ce qu'elles puissent garder le cap et qu'elles ne lâchent pas et qu'elles prennent toute leur place dans ce concert.
À partir de quelle année, Jeannie Longo, vous avez concouru pour le Tour de France ?
Dès 1985. Et là, j'ai été championne du monde cette année-là.
Et après, vous avez remporté 3 fois le Tour de France féminin?
Oui, c'est ça. 87, 88, 89.
Et quand le Tour de France féminin s'est arrêté en 1989, est-ce que vous avez regretté ça?
Non seulement je l'ai regretté, mais je me suis battue pour qu'il reste. J'ai eu l'occasion de dîner avec Jean-Marie Leblanc, qui était à l'époque le directeur du Tour. Et je lui disais que c'était scandaleux qu'il arrête le Tour féminin, et le Tour de France féminin.
Quels étaient ses arguments?
Ça lui coûtait trop cher, c'était pas assez rentable et que c'était trop compliqué. Parce que les étapes, faire arriver 2 pelotons en même temps et puis des étapes de départ différentes, c'était trop compliqué. Je lui ai dit que c'était pas un argument, c'était des faux arguments pour arrêter le vélo féminin. Et je pense qu'il avait une certaine pression du milieu professionnel homme qui ne voulait pas. J'ai toujours dit, plus on est de fous, mieux ça vaut, et le marché du cycle pouvait qui gagner. Hein, bon, bah non, leur raisonnement c'était pas tout à fait ça. C'était qu'on était des concurrentes sur le marché du cycle,
des sponsors,
etc., des collectivités territoriales éventuellement pour d'autres épreuves. Voilà.
Et vous, Frédéric Urlin, Jeannie Longo, ça incarne quoi pour vous?
C'est vraiment une autre époque du cyclisme féminin. Une époque où ça devait, dans tous les cas, pas être très simple. Et peut-être, malgré elle a tellement gagné que ça a peut-être généré un petit peu d'inimitié. Parce que quand le cyclisme féminin a commencé à se redévelopper, je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes, comme Pauline Ferrand-Prévot, comme Audrey Cordon-Ringaud, alors qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, ça a dû un peu les lasser, qu'on leur demande tout constamment, et Jeannie Longo, et Jeannie Longo, et Jeannie Longo, alors que ces jeunes femmes faisaient déjà des parcours sportifs extraordinaires. Ça a été un héritage un peu lourd à porter. ça a caché plein de super cyclistes féminines, notamment en France, mais à l'échelon mondial, hein, parce qu'il y a vraiment une hégémonie Jenny Longo qui était énorme, quoi. Moi, j'ai eu la chance de rouler contre elle, en contre-la-montre. Elle est sacrément impressionnante. Sacrément impressionnante. Ça forge le respect, malgré tout.
Jenny Longo, vous courez encore aujourd'hui. Vous continuez de remporter des médailles, des titres.
Enfin, petitement.
Pendant plus de 30 ans, oui. Vous avez dominé comme ça le cyclisme féminin. Est-ce que c'était compliqué pour vous d'incarner cette position? Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes filles qui n'osaient pas complètement entrer dans le cyclisme face à vos performances?
Oh non, je pense pas que les petites filles, ça les ait découragées. Au contraire, je pense que si, justement, on montrait un peu la télévision, pour les jeunes, je pense que c'était plutôt une attirance. Mais c'était plutôt celle que je rencontrais dans les courses nationales, c'est-à-dire championnat de France, puis internationales, qui en avaient un peu marre de me voir encore, quoi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de jalousie. Après, il y avait un consensus général, fallait pas que je gagne. Quand j'arrivais dans une course, j'étais quand même la femme à abattre, quoi. À faire perdre. C'est pas que je veuille spécialement être aimée, mais enfin c'est difficile de voir que il y a toute la haine et la jalousie d'un peloton contre vous, quoi. C'est pas facile. J'étais triple championne du monde cette année-là, hein, en 89. Trois titres de championne du monde, record de l'heure, Tour de France. Je pensais que c'était bien plein, quoi. Et donc voilà, je me suis dit bon, je vais peut-être essayer de faire une famille. Ça va marcher.
Il a fallu attendre les Jeux Olympiques d'Atlanta pour que vous ayez votre médaille olympique, ouais. Médaille d'or.
Oui, c'est ça. Médaille d'or et médaille d'argent. Oui, un grand moment. Un grand moment.
Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot. Comme Jenny Longo, qui n'étonne que les sots, qui aime bien le vélo. Jenny Longo.
Marie-Françoise Potreau, que représente le nom de Jenny Longo?
Écoutez, pour moi, c'est la femme qui nous a portés au niveau du cyclisme féminin français et international. C'est une femme qui a réalisé des choses extraordinaires, que ça soit sur inattendu, voilà, que ça soit dans des championnats du monde, dans des Jeux olympiques. Et pour moi, c'est vraiment, je dirais, le modèle qu'on voulait copier, en tout cas, mais on n'y arrivait pas, mais qu'on a essayé de copier le mieux possible, parce que c'est la femme qui a réussi. Voilà. Et ça, c'est hyper important de lui rendre hommage par rapport à ça, parce que je pense que ça a été c'est elle qui a tout déclenché derrière. Il faut toujours des pionnières. Eh ben, c'est une pionnière.
C'était Tour de France féminin, le récit d'une conquête. Premier épisode, 1984, un tour en marge des hommes. Avec Marie-Françoise Potreau, Jenny Longo, Julien Chesnais et Frédéric Hurlin. Archive INA, Nathalie Christ et Hervé Hervani. Recherche musicale, Antoine Villoz. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Élise Gruau et François Teste.